je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Exode. Le chapitre 23. Exode 23. On va lire le verset 20 au verset 25. Exode 23, 20 à 25. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statue. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Amen. Voilà, ici on peut voir sans crainte, hein, en cet ange, le Fils de Dieu, l'ange de l'Éternel. Voilà l'ange que Dieu il a envoyé. Pourquoi? Car l'œuvre qu'on vient de lire, l'œuvre qu'il accomplit dans ce qu'on vient de lire, il ressemble exactement à l'œuvre que Jésus-Christ il a accomplie, qu'il accomplit et il accomplira jusqu'à la fin. C'est cet ange-là que Dieu il a envoyé. Encore une fois, ce n'est pas un simple ange, mais c'est l'ange de l'Éternel. Et pour ceux qui étudient un peu la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel est Dieu. Et l'ange de l'Éternel, il s'est manifesté dans l'Ancien Testament, du commencement jusqu'au livre de Malachie. Ensuite, plus de traces. Pourquoi ? Quelqu'un le sait pourquoi? Parce qu'après Malachie, il vient quoi? Les évangiles. Qui c'est qui s'est révélé dans les évangiles? Jésus-Christ. C'est l'ange de l'Éternel et ses manifestations de Jésus-Christ. Mais une fois que Dieu il s'est fait chair, c'est Jésus. Et Jésus, il a fait... Il fait et il fera tout ce qu'on vient de lire dans ces cinq passages. D'ailleurs, dans Ésaïe 63, verset 9, voilà ce qu'il nous dit. L'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Le frère Jean-Pierre, mercredi, il a dit, est-ce que Dieu, il est sauveur? Ou c'est Jésus le sauveur? Hein? C'est ça. Mais Jésus est Dieu. Bien sûr, Dieu, il est sauveur. Mais Jésus est le sauveur. C'est lui qui l'a tout accompli. Donc, je vous invite à bien regarder ces cinq versets et on va voir trois choses. Premièrement, on va voir le Sauveur. Le Sauveur. Alors, au verset 20, il nous est dit un ange. Un ange, ici on voit, c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici-bas. C'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est venu des cieux. Un ange. D'ailleurs, Jésus, il a dit, je ne suis pas venu comme vous. Je viens des cieux. Et ici, il nous a dit qu'un ange, il venait des cieux. Pourquoi? Parce qu'aucun homme, il peut racheter un autre homme. Pourquoi? Parce que nous, on vient de le lire, Hugues vient de nous le dire, hein, dans Éphésiens 2, nous étions tous de leur nombre. C'est-à-dire, nous étions tous pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il fallait que quelqu'un meure. Alors, ça c'est la pensée de Dieu depuis toute éternité. Il faut, dans sa justice, que quelqu'un meure. Et alors, qui peut mourir pour un autre? Quelqu'un qui n'a pas péché, un innocent. Et Jésus-Christ, il a fait cela. Il a donné sa vie. Mais c'est quelqu'un qui vient d'en haut. Donc, quelqu'un qui vient d'en haut, c'est quelqu'un qui n'a pas péché. D'ailleurs, lui-même, il a dit, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et pourtant, vous savez, dans la loi juive, il y avait 650 commandements. Et c'était vite fait de dire, mais toi tu n'observes pas les commandements. Même si c'était des commandements établis par des hommes. Pas seulement les commandements moraux de Dieu. Non, mais 630 il y en avait. Et pourtant Jésus il a dit, qui de vous me convaincra des péchés? Voilà cet ange qui est venu des cieux. Et ici dans ce verset, dans chapitre 23, Dieu il dit, l'ange de l'Éternel. Et dans Ésaïe, il dit, c'est l'ange qui les a sauvés, qui les a rachetés. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait pour tous ceux qui l'ont accepté en tant que Seigneur et Sauveur. La deuxième chose qu'on peut voir ici, c'est dans verset 20 toujours, il dit, j'envoie un ange. Le mot ici à retenir, c'est le mot « j'envoie ». Qui c'est qui envoie? C'est Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un gouvernement qui l'envoie ou qui l'établit, ou même une église, une organisation qui dit « j'envoie ». Non, ici c'est Dieu qui envoie. Et comme on l'a vu ce matin, Dieu, il est Dieu, il n'est pas un homme. Il est Dieu. Et lorsque Dieu, il envoie quelqu'un, c'est parce que dans son amour et dans sa grâce, il veut nous faire du bien. Pourquoi est-ce qu'il l'envoie? Parce qu'il veut nous bénir. Parce que les pensées de Dieu, c'est que le bonheur pour nous. Aujourd'hui, dans notre vie, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'on dit lorsque les choses ils vont mal? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Mais la Bible, Dieu, il nous dit, j'ai un avenir pour toi. On vient de le chanter, hein? Bientôt il va venir et nous serons avec lui éternellement. C'est ça l'avenir que Dieu nous prépare. Un avenir de richesse. Il nous donnera selon sa richesse. Nous serons co-héritiers. Nous serons héritiers de toutes les choses. Voilà pourquoi c'est Dieu qui dit, j'envoie. Et dans les psaumes 3:16, dans Jean, il nous a dit, hein, qui c'est qui ne connaît pas les psaumes? Pas les psaumes, Jean 3:16. Tout le monde. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Il a envoyé son fils. Pour faire quoi? Pour donner sa vie pour chacun de nous. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. D'ailleurs, Jésus, il l'a dit, il l'a répété. Si je suis ici, c'est parce que Dieu m'a envoyé. Je suis là pour accomplir la volonté de Dieu. Je ne parle pas de moi-même, mais je parle de la part de Dieu. Je vous parle des choses que j'ai vues. Et cet ange-là, c'est exactement la même chose. Donc, ils ont fait la même chose. C'est, il était l'envoyé de Dieu. Et quelqu'un qui dit, je suis l'envoyé de Dieu, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est un peu comme nous, si nous sommes enfants de Dieu, c'est pour quoi faire? C'est pour accomplir la volonté de notre Père. Et pas pour accomplir notre propre volonté. Une troisième chose qu'on peut voir dans ce verset, c'est au verset 21, il nous est dit, « Car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. » Quel est le nom de cet ange? Vous en souvenez, Manoac, le père de Samson. Quel est ton nom? Mais mon nom est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Esaïe, tu l'appelleras admirable, Père éternel, Dieu tout-puissant. Et ici, il est clairement dit, hein, car mon nom est en lui. Moi et le Père, nous sommes un. Ici, il dit que l'ange qui l'envoyait avec Israël pour combattre, son nom était en lui. C'est-à-dire, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui va intervenir. Et c'est ça qui doit nous amener à lui faire confiance encore plus à Jésus-Christ. Car Jésus, il était Dieu. D'ailleurs, il nous l'a dit dans Timothée 3,16. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est ce qu'il a fait Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a fait cet ange lorsqu'il a accompagné. Ici, il nomme plusieurs peuples. Mais ça, c'est exactement la même chose pour nous. Hein. Nous, c'est le monde. Nous avons choisi du milieu du monde. Pour faire quoi? Pour apporter cette bonne nouvelle, dire au monde qui est souffrant, qui est dans la misère, qui est dans les besoins, leur dire, Dieu vous aime. Dieu, il a tout préparé pour vous. La seule chose qu'il vous demande, c'est d'aller vers lui. Car il désire vous accorder la paix, la joie, la vie éternelle, le bonheur. Donc, il faut aller vers lui. Pourquoi Jésus? Parce que en Jésus, il y a le nom de Dieu. D'ailleurs, Jésus, ça signifie quoi? Dieu sauveur. Dieu sauveur. Quel autre nom il contient une si grande vérité? Aucun autre nom. Et il nous a dit, il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Ici, dans Exode 23, cet ange, c'est le seul qui peut faire rentrer le peuple d'Israël dans le pays de Canaan, qu'il peut le faire sortir gagnant. Et c'est Jésus, c'est exactement la même chose pour nous. C'est le seul qui peut nous faire rentrer dans le paradis, qui peut nous avoir tout ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, le mot paradis, hein, des fois ça nous arrive dans cette même vie, hein, on dit « Ah, c'est le paradis !» Et encore, c'est des choses qu'on voit, mais le paradis, ça va être encore quelque chose de plus merveilleux. On l'a vu lorsqu'on a prêché sur la Nouvelle Jérusalem, hein, chapitre 20 à 21 dans l'Apocalypse, comment elle est cette Nouvelle Jérusalem. Et encore à Jean, il a donné des descriptions. Il ne pouvait pas faire autre chose. Il voyait les choses comme ça. Et d'ailleurs, il a dit, il y a 12 portes, et ces 12 portes, ils sont des 12 diamants. Vous vous rendez compte, une porte en diamant. Voilà, il décrivait quelque chose d'inouï. Et ça, c'est ce que Dieu il en réserve pour chacun de nous. On voit ici que c'est il portait le nom du Seigneur. Autre chose qu'on peut voir ici au verset 21 de cet ange, il dit, si vous lui résistez, il ne pardonnera pas vos péchés. Et ça, c'est dit de cet ange. Il dit, si vous lui résistez, il ne pardonnera pas vos péchés. Jésus-Christ. Jésus-Christ, il pardonne les péchés. Lorsque, vous vous en souvenez, lorsque il a fait ce miracle, il a guéri quelqu'un, il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Alors tout de suite, les gens, les juifs, qui peut pardonner les péchés sinon Dieu? Ben oui, il n'y a que Dieu. Alors il lui a dit, est-ce que c'est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Qu'est-ce que c'est qui est plus facile? Et selon vous? Hein? Non, tes péchés sont pardonnés. C'est beaucoup plus facile, hein? Mais c'est là que Jésus dit, mais pour vous montrer, lève-toi et marche. C'est plus facile, mais il a pris les plus difficiles, les choses les plus qu'on ne peut pas faire. Et puis il nous a dit que le Fils de l'homme, hein, il peut pardonner le péché. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais il dit, si vous lui résistez, c'est-à-dire si on n'écoute pas ce qu'il a enseigné, si on n'écoute pas, si on ne fait pas confiance en ce qu'il est, il ne veut pas nous pardonner. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Lorsqu'il a dit « Je suis », c'est le même nom que Dieu il a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Oui, mais si le peuple me dit « Quel est ton nom ?» Qu'est-ce que je vais lui dire? Il dira, je suis celui qui est. Combien de fois Jésus dit, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et si on ne croit pas que Jésus est Dieu, nous mourrons dans nos péchés. On peut aller à l'église, faire des cultes, des réunions et tout ça, mais si on ne croit pas que Jésus est Dieu, nous sommes perdus. Les témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils sont perdus. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Si vous ne croyez pas que je suis Dieu, vous êtes perdus. Et pourtant, les témoins de Jéhovah, ils font des œuvres. Ils n'arrêtent pas de prêcher, de témoigner. Plus que nous, chrétiens. Ce n'est pas si vous faites attention en venant là. Vous les voyez toujours, hein, ensemble, en groupe de 10 ou de 20, et ensuite ils disent pas, toi tu vois tel endroit, toi tu vois là, là et là, là. Et ils sont là pour ça. Mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils croient que Jésus c'est un ange. Non, mais Jésus est Dieu. Voilà pourquoi cet ange, il fait exactement la même chose que Jésus l'a fait. Parce que cet ange est Dieu. Et la manifestation de cet ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, c'est le Sauveur, c'est lui le Sauveur. Et dans Marc 2, 20, il nous est dit, les fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Voulons-nous être pardonnés de nos péchés? Il faut se tourner vers Jésus. Vous savez, c'est comme si Jésus, il s'est lavé les mains. Pas Jésus, Dieu. Il s'est lavé les mains. Bon, vous êtes comme ça, vous êtes des pécheurs, mais j'ai pourvu au salut. C'est Jésus. Il est mort pour vos péchés. Vous voulez avoir le pardon? Tournez-vous vers Jésus. Ne me dites plus rien. C'est Jésus, c'est le chemin. Il n'y a que lui. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a fait la paix avec Dieu. C'est lui qui nous a réconciliés. Pourquoi Dieu nous a pardonnés? Parce que Jésus, il a donné sa vie pour nous. C'est ça le Sauveur. C'est ça le Sauveur. La deuxième chose qu'on va voir, c'est le salut. Jésus est le Sauveur, mais il nous a apporté le salut. C'est quoi le salut? Il a fait quoi? Ce salut contient des grandes et des délicieuses promesses. Premièrement, il nous le dit au verset 23. Il dit, « Je les exterminerai. » C'est quoi le salut? C'est pour nous délivrer de nos ennemis. C'est ce qu'il a fait, Jésus. Qui c'est notre ennemi? Mais c'est Satan. C'est Satan. Et Jésus, il nous a libérés, il nous a délivrés, il nous a rendus, il nous a enlevés de cet esclavage dans lequel nous étions. Encore un peu de, dans Éphésiens 2, on vient de le lire. Hein? Nous étions tous esclaves. Nous n'avions pas toutes ces bénédictions. Mais grâce à Jésus-Christ, et il dit, vos ennemis, je les exterminerai. Nos ennemis, c'est le péché. C'est la convoitise. C'est l'hypocrisie qu'on peut avoir. C'est toutes les tentations. Ça, c'est nos ennemis. Mais Dieu, Jésus, le salut, c'est cette force, cette puissance que seul Jésus nous a donnée, de pouvoir dire non au péché. Et ça, c'est Jésus qui nous l'a donné. Voilà pourquoi il dit, je les exterminerai. Je les exterminerai. Pourquoi il peut le faire, cet ange? Parce qu'il est l'envoyé de Dieu, parce qu'il est Dieu. Pourquoi Jésus, il peut le faire? Exactement pour la même chose. Jésus, avant de s'en aller, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout. Dans les cieux et sur la terre. Voilà pourquoi il peut exterminer. Et il a déjà exterminé nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'il a été vainqueur. Attention, je n'ai pas dit que nous sommes vainqueurs. Mais nous avons la victoire par et à travers Jésus-Christ qui l'a vaincu. C'est ça. C'est un peu comme, vous savez, en Italie, la Deuxième Guerre mondiale, il y a ceux qui se sont rébellés à Hitler et Mussolini. Et lorsque les Américains ils sont venus, ils disent « Ah, on a gagné !» T'as rien gagné. C'est quelqu'un d'autre qui a combattu pour toi. Et c'est exactement, c'est Jésus qui nous a donné toute cette liberté. Parce que c'est lui qui a combattu, qui l'a gagné, la bataille. La bataille. Hein? Pour nous délivrer de nos ennemis. Et au verset 20 encore, à cet ange qu'il dit « Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Oui, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous ramener où? Dans la puissance des lumières. Nous étions morts et il nous a donné la vie. Nous étions esclaves et il nous a libérés. Nous étions pauvres et il nous a enrichis. Dès que moi je ne suis pas riche, moi j'arrive même pas au 15e du mois, j'ai plus d'argent. Tu es riche! Parce que tu es un enfant de Dieu. Et Jésus, il nous a donné toutes ses richesses. C'est ce qu'il nous dit pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Vous savez ce qu'il nous a préparé, Dieu? Le ciel, le paradis. Et tout ça, il l'a fait pour nous, parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Hein? Et il nous a dit dans Colossiens, et toi, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le royaume de Dieu. Pourquoi c'est si important ça? Parce que nous allons régner avec Jésus-Christ. Il y a beaucoup de dénominations qui ne croient pas dans le royaume de Jésus-Christ. Quelques-uns ils pensent que le royaume il est déjà commencé. Que nous vivons déjà le royaume. Vous savez, en faisant ça, ils enlèvent un droit au Messie qui est Jésus-Christ. Un Messie, il a besoin d'avoir un endroit où exercer son royaume. Et cet endroit, c'est Israël. Il a besoin d'un peuple. Et ce peuple, c'est Israël. C'est Israël, le peuple du Messie. Et la capitale de ce royaume, c'est Jérusalem. Regardez aujourd'hui, quelle est la capitale d'Israël? Qui la connaît? Tel Aviv. Pourquoi pas Israël? Pourquoi pas Jérusalem? Parce que les nations, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas reconnaître la Jérusalem que Dieu il a établie depuis longtemps. Mais un jour, Dieu est souverain. Dieu il va intervenir. Et dans ce royaume, c'est Jérusalem qui va être la capitale centrale. Parce que c'est le royaume. C'est le royaume. Et il est venu prêcher quoi, Jésus? Il est venu prêcher le royaume. C'est ça l'heure que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Et croire à ces choses-là. Et pas se laisser guider par des gens qui veulent enlever encore une fois des droits à Jésus-Christ. Un peu comme, j'ai dit, les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus a été créé, que Jésus il n'est pas Dieu. Ils enlèvent un droit. Ceux qui ne croient pas dans cet établissement du royaume, ils enlèvent toutes les prophéties qui ont été faites à Jérusalem. Toutes les prophéties qui encore ne se sont pas accomplies. Et vous savez, si le Messie y revient, si Jésus-Christ y revient, pourquoi est-ce qu'il revient? Vous me direz, c'est pour enlever son Église. Oui, c'est bien. Mais pas que pour ça. Il a des prophéties à accomplir. Il y en a qui ont été accomplies à la lettre, mais il y en a d'autres qui ne se sont pas encore accomplies. Et s'il revient, c'est pour accomplir toutes ces prophéties. Pourquoi? Car la Bible, elle est remplie de prophéties. La Bible nous révèle l'avenir. La Bible nous révèle ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi il nous est dit, hein, pour nous faire sortir et nous faire rentrer. C'est ce qu'il voulait faire, cet ange. Et c'est ce que Jésus, il a fait. Au verset 25, au 20 toujours, hein, verset 20, hein, il nous dit que cet ange, il est là pour nous empêcher de tomber en chemin. Nous empêcher de tomber en chemin. Pendant la délivrance du pays de Canaan, cet ange, il est là pour nous empêcher de tomber, le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, on transporte tout ça à notre vie d'aujourd'hui. Jésus-Christ, il est là pour nous empêcher de tomber. Et si nous tombons, il est là pour nous relever. Pour nous relever. Hein? Jésus est le seul capable de nous délivrer. Le seul. Le seul. Et qui nous puisse nous donner tout ce dont nous avons besoin. Il dit, je suis le chemin. Dieu, il a préparé un chemin. Et dans Ésaïe, il a dit, voici le chemin, marchez-y. Mais il nous a dit plus loin, qu'il dit, l'homme, il cherche toujours des détours. Mais Dieu, il a préparé un seul chemin. Un seul chemin. Et nous devons marcher. Et qui c'est ce chemin? C'est Jésus. C'est Jésus. Lorsque Jésus, il avait fait des miracles, la multiplication des pains, il y avait une quantité de gens qui l'avaient suivi. Mais Jésus, il nous a dit, il n'avait pas confiance en ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il le suivait seulement pour manger. Mais il ne croyait pas en lui. Aujourd'hui, il faut suivre Jésus parce qu'on croit ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Voilà pourquoi il nous a dit qu'il est là pour nous protéger. Ne craignez pas, petit troupeau. Je suis là. Encore une fois, tout pouvoir m'a été donné. Paul il nous l'a dit dans Romains. De qui devons-nous avoir peur? De la mort, de la vie, des anges, des démons? Mais personne. De personne. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Il est notre bouclier. C'est lui qui nous dirige en toutes choses. Au verset 25, Il dit encore, il bénira votre pain et vos eaux. C'est lui qui pourvoit en toutes choses. Il nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Pas selon nos propres pensées. Dans notre pain quotidien, pas notre pain quotidien, dans notre Père, il nous a dit, donne-nous notre pain quotidien. Pas donne-nous un congélateur plein. Notre pain quotidien. Et c'est vrai qu'il est lâche, comme il dit, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, on prie le Seigneur, il nous donne, merci Seigneur. Oui, mais demain, je sais. Mais demain, tu verras, demain, tu demanderas encore, et le Seigneur est là. Voilà pourquoi il nous a dit, il pourvoit à nos besoins quotidiens. Il dit la piété dans Timothée 4, 8. La piété est utile à tout. C'est-à-dire observer ce que Dieu dit, faire ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses de la vie présente et de la vie future. Dieu, il ne nous abandonne pas. Dieu, il est là. Tout besoin, il va nous le donner. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Hein? Et encore au verset 25, regardez ce qu'il dit. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Est-ce que ça veut dire que nous ne serons jamais malades? Non. Hein? Pas comme certaines qui prêchent que si l'on devient enfant de Dieu, nous ne serons plus malades, nous serons riches. Voilà, non. Ici, il dit, j'éloignerai, je serai là, je porterai les fardeaux avec vous. Et c'est ce qu'il dit, l'ange, si vous l'écoutez, si vous ne lui résistez pas, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Pourquoi? Parce qu'il s'est chargé de nos douleurs. Nous sommes malades, nous devons nous tourner vers lui, le Seigneur, voilà. C'est toi qui as porté toutes mes maladies, toutes mes souffrances, et tout ça. Je les mets entre tes mains, et toi qui es Dieu Tout-Puissant, pourvois. C'est ça ce qu'il nous dit. Hein. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et encore une fois, lorsque nous sommes malades, il nous sera fait selon notre foi. Selon notre foi. Au verset 23 encore, dans ce verset, il nous dit, il marchera devant toi. Il les envoie conquérir le pays, mais il dit, mon ange, il marchera devant toi. C'est-à-dire, Dieu, il sera devant toi. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir Dieu devant nous? Parce que comme ça, nous pouvons le voir. Nous pouvons suivre ses traces. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous a dit, « Ayez les yeux fixés sur Jésus-Christ. » Car si nous avançons, si nous marchons devant Dieu, nous n'accomplissons pas sa volonté. Nous accomplissons notre propre volonté. Voilà pourquoi il dit, « Je marcherai devant toi. » Les bons bergers, ils marchent devant les brebis, n'est-ce pas? Ils voient les bergers et ils suivent les brebis. Mais si vous laissez les brebis devant et les bergers qui soient derrière, ils vont n'importe où. Mais les bons bergers, ils marchent devant. Et qu'est-ce qu'il a, nous a dit le psaume 23? Les bons bergers, ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que c'est lui qui pourvoit, qui combat, qui éloigne les loups, qui éloigne les bandits. Il est là, il est devant pour ça. Il combat pour nous. Et lorsque nous arrivons, les choses, ils sont faites. Le peuple d'Israël, il ne combattait pas. C'est Dieu qui combattait pour eux. C'est Dieu qui combattait pour eux. Voilà pourquoi il dit, il nous délivre, il marche devant nous. Et au verset 20, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il a préparé pour nous le ciel, comme une fois. Nous sommes dans une marche. Nous sommes dans une marche vers quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Dieu. C'est le paradis, le bonheur, la paix. Et il n'y a que Jésus qui peut nous faire arriver. Parce que nous, nous n'avons pas la force de le faire. Nous n'avons pas la force de le faire. Voilà, voilà ces saluts, ces saluts. Mais en connaissant les sauveurs, en connaissant les saluts, qu'est-ce que c'est que nous devons faire? Parce qu'il y a la part de Dieu et il y a notre part. Et il n'y a pas que Dieu qui travaille. Dieu, il a fait sa part. Dieu, si tu existes, manifeste-toi. Et il s'est déjà manifesté. Maintenant, c'est à nous. Lorsque Dieu, Jésus, il a été amené au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Il est assis. Maintenant, il attend. C'est un Dieu toujours plein de grâce et de miséricorde. Mais il faut que les gens, ils aillent vers lui. Alors, que faut-il faire? Toujours au verset 27, regardez ce qu'il dit, cet ange. Il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes en ta présence. C'est un avertissement solennel, ça. Tiens-toi dans tes gardes, dans sa présence. Lorsqu'on se présente devant le Seigneur, il faut faire gaffe. Il faut faire attention. Parce que c'est un Dieu de grâce, de miséricorde, oui, mais c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui l'a donné ses volontés, qui les a écrites, qui nous les a données, mais c'est un Dieu impitoyable. Lorsqu'on n'observe pas sa parole, il est obligé, même s'il est amour, de nous punir. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et il nous a dit plusieurs endroits, crains Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Il est Dieu. Comment voulez-vous expliquer, donner la signification de Dieu? Il est Dieu, il est tout. Voilà, c'est, on ne peut pas. Il est Dieu, quoi. Et nous sommes des hommes. Et voilà pourquoi il dit, crains Dieu. Ne tombons pas dans la présomption. Oui, mais moi je suis un homme, moi je suis intelligence, moi j'ai ça. Par rapport à Dieu, nous n'avons rien. Notre intelligence est limitée. Comment, avec notre intelligence limitée, voulons-nous comprendre l'illimité des yeux de Dieu? On ne peut pas. On ne peut pas. Jean-Pierre nous a parlé un peu de la Trinité. Comment comprendre la Trinité? On ne peut pas. Un Dieu, trois personnes. Comment comprendre ces choses? On ne peut pas. Mais un jour, nous le verrons. Voilà. Dieu, il nous dit, crois et tu verras. Crois et tu connaîtras. La création, c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé toute chose. Sinon, comment voulez-vous croire que quelqu'un dit la chose? On ne peut pas. On ne peut pas. Mais il nous dit seulement de croire. Et il nous dit, il faut marcher humblement devant Dieu. Savoir ce que nous sommes. Voilà ce que nous devons faire. Hein? Marcher humblement. Et aussi, il nous a dit, écoute sa voix. Alors, écoute l'ange qui te dirige. Écoute sa voix. Et pour Jésus, c'est exactement pareil. C'est pas celui qui apprend la parole de Dieu, qui la, entre guillemets, la connaît, mais c'est celui qui la met en pratique. Parce que ça sert à rien, on dit que Jésus est maître, et ensuite nous, que nous sommes des élèves, nous n'écoutions pas ce que le maître nous dit. Les gens qui disent, oh oui, je connais Jésus, je fais même des miracles, le Seigneur l'a dit, mais je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce que moi je te disais. Je te connais pas. Et vous savez, lorsque le Seigneur dit « Je te connais pas », pour celui qui veut se montrer ou qui il croit savoir qu'il est près de Dieu, il a donné ça, il a fait ça, et voilà. Et ensuite se sentir dire « Je te connais pas. Je te connais pas. » C'est un peu comme il est venu dans Jean 1, il a dit « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas connu. » Il est venu chez les Juifs, lui qui était Juif, et qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ne l'ont pas connu. Connaître Dieu, c'est vivre selon tout ce qu'il a révélé, et le mettre en pratique surtout. Écoute sa voix, ça veut dire obéir totalement. L'ange, s'il devait le conduire, lorsque l'ange dit « avance », il faut avancer. Et pas se mettre des pensées dans la tête. Oui, mais il y a beaucoup de monde, on n'est pas tellement armé, on ne sait pas. Avance! Écoute sa voix. Il faut obéir totalement. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit, un seul, il nous a dit dans Matthieu 23, je crois, un seul est votre maître, un seul est votre enseignant, et c'est Jésus-Christ. C'est lui qui commande, c'est lui le chef de l'Église. N'écoutez pas ce que moi je vous dis. Écoutez ce qu'il vous dit, Jésus, dans sa parole. Il ne faut pas regarder au pasteur, il ne faut pas regarder à l'homme qui a des grandes connaissances, mais il faut regarder à Christ. Et surtout, obéir. Obéir, hein? C'est par la foi qu'Abraham obéit, on l'a vu la semaine dernière. Pourquoi Abraham il obéit? Parce qu'il avait la foi, il croyait en tout ce que Dieu lui disait. Au verset 27, il dit « Ne lui résistez pas ». Et Jésus, c'est exactement pareil, il ne faut pas lui résister. Il faut, pour nous qui le connaissons en tant que Seigneur et Sauveur, rester ferme dans la foi. Ça peut nous arriver des choses difficiles à vivre, mais il faut rester ferme. Car c'est lorsqu'on reste ferme que le Seigneur il va intervenir. Et encore, il nous a dit... Il file au verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Verset 24. Avoir encore une fois la fidélité d'observer tout ce que Dieu il nous dit dans sa parole. Les commandements de Dieu. Tu adoreras un seul Dieu. Tu ne te prosterneras pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'on voit? On voit qu'on adore d'autres choses. On se prosterne vers d'autres choses. Vous savez, il y a des mots qui sont pour Dieu. On entend ça beaucoup parmi la jeunesse. Ah, j'adore ces chanteurs. J'adore cette chanson. Le mot adorer, il faut l'utiliser que pour Dieu. Tu n'adoreras pas d'autres dieux ou d'autres choses. C'est ça ce qu'il nous dit. Hein? Nous sommes prêts à prendre, à nous prosterner pour toute autre chose que Dieu. Lorsque la chose nous rend, il est profitable pour nous. On laisse Dieu de côté. Mais Jésus, il a été clair, hein? Dans Matthieu 6, 33, vous connaissez tous ce verset, hein? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. D'abord, avant toute chose. Avant toute chose. Hein, je l'ai dit dans une réunion de prière, il a dit, je l'ai dit, j'aime ma femme, mais j'aime plus Dieu. Ah oui. Pourtant, on doit aimer la femme ou le mari, hein? Mais d'abord, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui compte. Et pas autre chose. Hein? Et dans l'Église, le Seigneur, il l'a dit, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, il nous le dit, sortez du milieu d'eux. Milieu d'eux, qui c'est eux là? C'est le monde. Nous étions dans le monde, mais Dieu, il nous a sortis du monde. Et il faut sortir du monde. Billy Graham, ça a été un très grand prédicateur évangélique. Il a amené beaucoup de gens au salut. Mais il avait quelque chose qui n'était pas entièrement biblique. Ça pourrait être un catholique ou je ne sais pas quoi qu'il se convertissait. Et il disait, retournez dans vos églises. Non, il faut sortir. Parce que nous sommes déjà mis à part. Nous avons une manière différente de nous comporter, une manière différente d'adorer, une manière différente d'agir, une manière différente de parler. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est ça ce qu'il nous dit. Et il nous dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon malgré toutes ces choses qui nous arrivent. Il faut tenir bon. Car c'est ça que le Seigneur, il demande. Et ensuite, au verset 25, il dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. » C'est-à-dire, servir fidèlement. Nous avons été sauvés pour servir. Et c'est ce que nous devons faire. Mais je suis sauvé, mais je ne sers pas. Il y a un problème. Je ne vais pas évangéliser, je ne témoigne pas. Il y a problème, je ne lis pas la Bible. Je ne vais pas au culte, je ne vais pas aux études bibliques. Je ne vais pas aux réunions de prière. Il y a problème. Car toutes ces choses-là, c'est pour servir le Seigneur. Vous savez, on voit, à la réunion de prière, on était 5 vendredi. Mais dirait, oui, mais on travaille, vous savez. À 7 heures, je crois que tout le monde est rentré de chez lui à la maison. Dis pas, il se venir tous les jours, mais c'est des réunions que le Seigneur il a instituées. Réunion de prière, études bibliques ou autre chose. Il faut donner du temps à Dieu. Dieu nous a donné 24 heures à disposition. Il dit, donne-moi un peu de temps. Un peu comme la dîme. Il ne nous demande pas tout l'argent que nous gagnons, mais une part, donne-moi là. Voilà pourquoi il dit de les servir fidèlement. Et vous savez, quel privilège de servir Dieu. Ce n'est pas pour vous, hein. Mais quel privilège de savoir qu'on sert le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui est toujours là. Voilà cet ange de l'Éternel, ce qu'il faisait pour son peuple. Et encore une fois, il fait exactement les choses que Jésus-Christ, il fait pour tous ceux qui lui ont accordé ce salut. Nous sommes des gens sauvés, perdus mais sauvés par Jésus-Christ. Donc à chacun de nous de réfléchir à toutes ces choses-là. Et en cette période de rentrée, de cette nouvelle année, que le Seigneur nous aide à avoir des vraies priorités. Car c'est cela que le Seigneur nous dit, sois fidèle. Le Seigneur nous a dit, Paul dit qu'il cherche des dispensateurs fidèles. Pas des gens qui donnent, mais des fidèles. Des fidèles. Alors, soyons fidèles à Dieu. Lui, il est, malgré que nous ne le